Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Dans son ouvrage « La technocratie, mythe ou réalité » paru chez Payot en 1964, Jean Ménot, né en 1914, professeur de sciences économiques, diplômé de l'École libre de sciences politiques de Paris, étudie tous les aspects de la technocratie. Dans l'extrait suivant sont exposés d'abord les rapports entre technocratie et démocratie, puis quelques critiques couramment adressées à la technocratie, une notion complexe, définie comme le souci d'annuler la politique par la technique et la volonté de dépolitiser les grands problèmes de la vie nationale en substituant au débat politique les forces économiques, administratives, scientifiques ou militaires. Extrait. Comme tant d'autres mots utilisé dans les sciences sociales, le terme « technocratie » est loin d'être employé en un sens uniforme. Les controverses, souvent partisanes, intervenues en France sur les idées de James Burnham, n'ont pas contribué à clarifier le problème. Les mots « technocratie » et « technocrate » sont devenus d'un usage commun en France, aussi bien dans les dissertations de style universitaire que dans les polémiques de la vie quotidienne. Il n'en va pas de même dans les autres pays européens où cette terminologie demeure peu connue et à peine utilisée, les phénomènes correspondants étant englobés dans l'étude de la bureaucratie. Il semble bien que le terme « technocratie » ait été créé aux États-Unis au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour désigner un système d'organisation de la vie économique inspiré des schémas rationnels des sciences physiques. Les ruines gigantesques entraînées par la Grande Dépression des années 30 ne pouvaient manquer de renforcer l'audience de ce courant. Mais en soulignant la nécessité de l'organisation et l'importance des ingénieurs, les doctrinaires de la technocratie retrouvaient une tendance permanente de l'esprit humain, dont Saint-Simon, si favorable au gouvernement par les techniciens, a été l'un des exposants les plus originaux. La technocratie trouve son fondement initial dans le culte de l'efficacité qui traduit le souci d'obtenir le maximum de résultats pour le minimum d'efforts. Cette attitude, qui s'accompagne le plus souvent de réticence à l'égard des autorités politiques traditionnelles, implique une grande confiance dans la valeur du raisonnement expérimental pour la solution des problèmes sociaux. Défini comme le dessaisissement de l'homme politique, responsable devant les citoyens, au profit de techniciens irresponsables, la technocratie paraît d'emblée opposée ou hostile à l'idée démocratique telle qu'elle continue à prévaloir dans les sociétés industrialisées pluralistes. L'influence technocratique ne résulte pas de la substitution ouverte d'un régime à un autre. Elle se manifeste et se développe généralement par un transfert de faits tendant à modifier l'équilibre des forces qui, selon la constitution officielle et la morale civique, sont censées assurer la gestion des affaires du pays. Dans une telle conjoncture, l'homme politique sert, pour ainsi dire, de paravent aux techniciens. En somme, ce pouvoir n'a pas de charte régulière. Ainsi s'explique peut-être l'âpreté avec laquelle les techniciens et spécialement les hauts fonctionnaires se défendent d'être des technocrates ou d'agir comme tels. Si l'on veut apprécier le niveau d'incompatibilité de la démocratie et de la technocratie, il n'est pas sans intérêt de mentionner quelques-uns des reproches faits aux technocrates, notamment dans la presse professionnelle. En premier lieu, une tendance à agir dans le secret et à préférer la discussion confidentielle au débat sur la place publique. Le technocrate, convaincu de son infaillibilité, serait en somme le meilleur adepte de la politique secrète et fermée, « closed politics », selon l'expression américaine. En second lieu, une propension à l'autoritarisme et à l'absolutisme, la dictature des technocrates. N'hésitant pas à témoigner de brusquerie dans l'annonce des mesures arrêtées, le technocrate montrerait un certain mépris pour les réactions du public ou au moins une certaine insouciance à leur endroit. Autre trait caractéristique, une préférence pour les positions doctrinales, les schémas abstraits et hermétiques, les raisonnements théoriques. Une ignorance ou même un mépris des réalités sociales. Le technocrate serait dépourvu du sens des valeurs politiques et des contingences parlementaires. Se confinant dans la capitale, il ignorerait les préoccupations provinciales et locales. Un second danger est la constitution dans l'appareil étatique de petits groupes relativement fermés. De tels groupes, tout d'abord, sont portés à se recruter par cooptation, procédé de sélection des éléments dirigeants dont on ne soupçonne généralement pas l'ampleur qu'il revêt dans tous les compartiments de la vie sociale. Il arrive que ce système possède une base légale, voire le mode de recrutement des grands corps de l'État avant 1945. En de telles conditions, d'autres éléments de choix que la compétence technique et l'intégrité morale tendent inévitablement à inspirer les responsables de l'opération. Appartenance sociale, communauté d'instruction ou de formation, rôle des écoles. En principe, l'ENA devait avoir pour rôle d'égaliser les chances et de briser au départ les particularismes. Or, cet établissement que l'on a pu qualifier de « séminaire du régime » semble avoir ajouté un mode de liaison nouveau entre les hauts fonctionnaires sans pour autant détruire les anciens types de rapports, permanence de l'esprit des grands corps. D'un autre côté, ces groupes, faisant ainsi preuve d'une inclination fréquente chez les membres des secteurs clos, essaient de coloniser des secteurs entiers de l'administration et des organismes rattachés à l'État, entreprises publiques par exemple. Le prestige des grandes écoles dépend, en une large mesure, du soin mis par les aînés à appeler auprès d'eux de jeunes diplômés. L'extension des grands corps hors de leur cadre d'origine tient pour beaucoup à cette forme de solidarité que facilite l'emploi de la cooptation comme mode de recrutement. Les efforts accomplis par les corps pour réserver à leurs membres un certain nombre de postes sont l'exemple type de cette tactique. La troisième tendance, plus subtile, plus difficile à analyser, est une certaine propension de ces groupes à adopter des symboles communs et des positions uniformes, à témoigner de quelques sectarismes dans le choix des systèmes d'interprétation et des principes d'action. En bref, à se fermer ou à s'isoler intellectuellement.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.